France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Anouk Milliot et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. Culture Monde, le vendredi, c'est une émission en deux parties. Le retour de terrain, d'abord, nous recevons ce matin Solène Chalvon-Fioriti, de retour d'Afghanistan, qu'avec sa co-réalisatrice Marianne Getty, elle a parcouru du nord au sud et d'est en ouest, à la rencontre de femmes et d'hommes qui tentent de préserver de très fragiles espaces de négociation avec les décrets talibans. En deuxième partie, pour la table ronde d'actualité, nous parlerons du Liban, sous le feu d'Israël. Le Hezbollah a décidé de venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei et repris ses tirs de roquettes dans la nuit de dimanche à lundi, d'où la riposte d'Israël, qui n'avait pas non plus respecté le cessez-le-feu conclu il y a plus d'un an, mais qui ordonne cette fois l'évacuation de la banlieue sud de Beyrouth, où même les populations chiites reprochent au Hezbollah aujourd'hui de les avoir entraînés dans une impasse. Nous recevrons Anthony Samrani, co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour, et Agnès Levallois, présidente de l'IREMO, une table ronde co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Bonjour Solène Chalvon-Fioriti.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour introduire votre travail et le dernier documentaire que vous avez réalisé, je voulais juste, si vous me le permettez, faire une rapide mention d'un dernier roman de l'écrivain afghan Khosrow Mani qu'on avait reçu en décembre dans Culture Monde et d'une scène toute simple qu'il décrit dans un village reculé d'Afghanistan où les talibans viennent de prendre le pouvoir. La prière à la mosquée est devenue obligatoire. Alors tous les jours à la même heure, on y voit à la mosquée un paysan qui remue la tête de haut en bas à chaque mot que prononce l'imam, un vieil homme connu pour son incontinence anale qui s'impatiente, deux adolescents qui font semblant de tousser pour dissimuler leur envie de rire, et à la fin tout le monde se dresse, on se met en rang, on lève les mains et on s'en va. Et d'une certaine façon, c'est en beaucoup plus dense et en de multiples lieux ce que l'on comprend dans le documentaire que vous avez réalisé avec Marianne Getty qui sera diffusé ce dimanche 8 mars sur France 5, Le Pays Taliban. Non seulement les interdits talibans varient selon les villages, mais beaucoup de femmes et d'hommes négocient tous les jours avec d'infimes précautions et en prenant des risques avec ces décrets talibans. Solène Chalvon-Fioriti, votre caméra prend le temps de filmer, s'attarde sur des regards, sur des conversations en pleine rue, comme si vous n'aviez pas eu d'urgence à filmer, comme on est d'habitude dans une certaine urgence quand on est clandestin dans un pays.
Alors oui, mais ça c'était parce que c'était notre volonté avec Marianne Getty de montrer un pays qui n'est plus un pays en guerre, qui est d'abord un pays très très beau, un pays depuis 5 ans qu'on peut enfin parcourir et plus comme moi je l'ai vécu pendant des années en Afghanistan à ne plus être arrêté en fait parce que les routes sont trop dangereuses ou parce que les bombes pleuvent. Donc en fait on voulait montrer ce très très beau pays, on voulait montrer un pays d'après-guerre, je dirais même un pays d'après-guerre civil. C'est-à-dire, d'une certaine manière, et même si ça fait mal à entendre, un pays qui est aussi un pays reposé, j'allais dire reposé jusqu'à récemment, puisque le Pakistan, malheureusement, déclenche tous les jours des frappes en ce moment.
Et là, a déclaré la guerre, on en parlera tout à l'heure.
Et là, a déclaré la guerre. Mais en réalité, c'est quand même un leurre, parce qu'on est caché avec Marianne Getty. Marianne Getty, c'est 4 missions où on n'a pas de visa officiel, où on ne les a pas obtenues, bien sûr. Et en plus, moi, j'ai un historique avec les talibans qui faisait que je savais que je pourrais pas rentrer facilement, donc je peux pas trop dévoiler les combines parce que je pense aux confrères et aux consœurs qui veulent essayer de continuer à tourner dans ce pays. On a attendu en fait le dernier visa, un visa officiel qui a été donné au moment du tremblement de terre qu'on voit dans le film, parce que c'est toujours quand il y a des catastrophes humanitaires que là ils fournissent des visas, et à ce moment-là on a pu tourner les talibans, mais on a fait en sorte que ce film, voilà, on ressente la beauté. Un pays qui est d'une certaine manière un pays qu'on peut enfin filmer sans caméra cachée, etc. Mais en fait, on est, croyez-moi, assez caché. Et de l'avantage d'être une femme, on dissimule pas mal de matériel sous nos niqabs et sous nos burkas.
De l'avantage d'être une femme et de l'inconvénient, parce que très souvent, votre caméra se pose sur des regards très fixe des talibans. Qu'est-ce que vous percevez dans ces regards qui ne vous font pas d'ailleurs baisser le vôtre, ni arrêter de filmer? Vous voyez quoi dans ces regards soutenus que l'on croise régulièrement dans votre documentaire?
En fait, c'est une des femmes principales du film, que je trouve qu'il le dit avec beaucoup d'intelligence. Elle dit, et là encore, ça frappe un peu nos imaginaires, mais elle dit, quand ils sont arrivés, ils avaient presque une pudeur. Ils nous regardaient, on avait l'impression d'être d'une autre espèce, que pour certains, ils n'avaient jamais vu des femmes, ils n'avaient jamais vu des villes. Et c'est vrai que moi, j'ai senti, puisque j'ai beaucoup couvert l'Afghanistan depuis leur retour, c'est vrai que ce regard a évolué. C'est un regard à l'image de ce mouvement entier, d'ailleurs, qui s'est beaucoup radicalisé, beaucoup endurci, qui était déjà évidemment très dur, mais je veux dire, où en plus, les éléments plus pragmatiques ont été écartés, et on sent maintenant une menace dans le regard. Encore une fois, nous sommes en tant que femmes étrangères très privilégiées parce que ils nous laissent travailler, ils nous considèrent comme une espèce de troisième genre, donc on peut encore un petit peu se faufiler, mais le regard sur les femmes afghanes et surtout les femmes des villes, comme c'est raconté dans le film, est un regard très agressif.
Kaboul, ville de perdition, ça persiste dans l'idée que s'en font les Afghans des régions rurales, y compris depuis que les talibans ont repris la ville, et il y a une longue séquence dans une région du sud de l'Afghanistan avec un petit garçon à bout qui est le fils d'un émir, d'un otage taliban, et qui répète mécaniquement ce que lui dit son père sur le bien et le mal, mais aussi sur Kaboul, ville de perdition, où les femmes montrent leurs dents. Alors lui, normalement, il n'a pas le droit de jouer avec les femmes, sauf avec sa petite sœur, parce que c'est sa petite sœur, et il ne comprend même pas qu'on lui pose la question. L'Afghanistan, aujourd'hui, dominé par le puritanisme, les femmes sont plus ou moins présentes, plus ou moins couvertes aussi, selon les régions et ceux qui les gouvernent. Alors vous vous arrêtez longuement au bord d'un lac, le lac de Bandehamir. On voit des hommes qui profitent des plaisir de l'eau sur des petites embarcations en plastique qui ont la forme de cygne, et puis les femmes qui regardent, qui restent au bord, qui contrôle qu'aucune femme ne se baigne.
Alors déjà, elle pourrait pas se baigner parce qu'elle saurait pas nager. Et les Afghans ont pas appris, évidemment, ont pas appris dans ce contexte de 40 ans de guerre à nager. Mais de toute façon, même s'il y avait pas eu les talibans, je veux dire, moi, je me rappelle de cela qu'avant Bandehamir, on y allait nous et tout le monde restait solidement accroché à son grand pédalo en forme de cygne, comme vous dites. Ça se fait pas du tout une Afghane qui se. Déjà, ça se fait pas une Afghane qui enlève le voile, mais alors en plus qui se déshabillerait. J'aurais pas vu ça. Mais c'est vrai que c'est une scène bouleversante en fait pour moi. Parce que, comme vous le disiez en introduction, les gens ne se laissent pas faire. Et quand vous parlez, vous dites toutes ces négociations, c'est drôle ce mot, parce que on négocie pas vraiment, en fait, puisque pour négocier, il faut une deuxième partie. C'est dans le silence, et quand les agents de la répression du vice ne sont pas là, qu'on se permet justement de se faufiler dans les petits interstices de lumière.
Sauf que pendant que vous êtes au bord de ce lac, une femme apparemment s'en est approchée d'un peu trop près avec son mari, et voilà qu'arrive un agent de la répression du vice, mais le père de famille ne veut pas se laisser faire.
Dites-moi ce qu'il y a d'illégal à montrer le lac à ma femme.
Je vous dis que je suis les ordres.
Tu ne peux pas expliquer. Alors quel droit te confère cette tenue?
Ce que tu fais est illicite. Tu cherches des ennuis avec moi?
Alors il faut quoi pour toi? Utiliser la force?
Si c'est une question de force, alors vas-y, on verra où ça te mène.
Êtes-vous des érudits religieux ou non?
Écoute mon frère, c'est un ordre.
Je veux que tu m'expliques ce qui, dans notre attitude, est contraire à la loi islamique.
C'est contraire à la loi islamique.
Ne mélange pas l'islam avec des envies arbitraires.
Ça, c'est l'islam. Nous ne faisons pas ce que nous voulons.
Votre devoir, c'est de nous expliquer les choses.
Nous ne laissons passer aucune femme. C'est comme ça.
J'emmène ma femme chez le médecin, je l'emmène faire des courses, je la conduis partout. Aucun homme ne posera ses yeux sur elle. Ce que vous faites est mauvais. Vous ne savez pas faire le bien.
Alors, qui est cet homme qui se permet de mettre en cause l'autorité des talibans, et comment s'est conclue cette négociation, Solène Chalvon?
Alors, c'est un homme magnifique. On se disait avec Marianne Jetty, ma merveilleuse co-réalisatrice, c'est vraiment la définition de l'élégance. Parce que, en fait, c'est tout à fait à l'image des Afghans qui ne vont pas dans la confrontation. C'est aussi raconté dans le film. On ne descend pas dans la rue avec des pancartes en hurlant pour demander des plus de droits pour les Afghans. D'abord, la rue et les manifestations ont été si longtemps synonymes d'attaques, d'attentats et d'explosions, et c'est ce genre de résistance, c'est-à-dire qu'en fait, cet homme-là qui parle pachto, attention, hein, c'est important de le dire parce que c'est la langue des talibans, donc on sent que c'est quelqu'un qui est quand même dans une proximité idéologique avec eux, c'est-à-dire qu'il peut se permettre de leur parler comme ça. Il y a des ethnies en Afghanistan, notamment les chiites Hazara, qui se permettraient pas du tout ce genre de confrontation. Mais là, il se plante devant lui, et en fait, il lui dit quoi? Il lui dit « tu es un plouc de l'islam, montre-moi en fait où est écrit dans le Coran ». que ma femme, elle n'a pas le droit de voir un lac avec ses yeux. En fait, il le prend, vous avez vu, avec beaucoup de respect. D'ailleurs, on le voit à l'image. Il y a son père derrière avec son grand turban de Moudjahid. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui s'est battu contre les Soviétiques. Enfin, il y a cette famille puissante du Sud qui lui dit qu'en fait, il est un péquenaud, presque il ne sait pas lire. Et on voit bien que l'autre n'a rien à lui répondre. C'est l'islam, c'est l'islam, c'est l'islam. Et finalement, ça s'est assez mal terminé. En tout cas, pour nous, on a fini par nous faire sortir parce que, heureusement, ils n'avaient pas vu qu'on était en train de filmer. Parce que je vous rappelle que la représentation du vivant est interdite par l'émirat taliban. Et s'il y a bien des agents pour faire respecter cette loi, c'est vraiment les agents de la répression du vice. Et donc, je pense qu'il a dû commencer à se dire, mais qu'est-ce qu'elles font là, plantées avec ce truc dans les mains? Parce qu'on avait à ce moment-là un iPhone et une caméra cachée. Donc, ils nous ont fait partir. Mais on entendait, on se faisait traduire que sensiblement, et puis moi, je les connais un peu maintenant, quand ils commencent à dire c'est l'islam, quand on commence à critiquer quel que soit le décret ou l'absurdité du décret, hein, je rappelle que là maintenant, la magie noire et le fait de, par exemple, de porter le mauvais œil est interdit, donc ça veut dire que les croyances populaires font aussi partie désormais de la lecture chariatique, mais on a senti que quand ils commencent à dire c'est l'islam, tu n'as pas à contester l'islam, ça peut vite partir en accusation de blasphème, si tu nous critiques nous, c'est que tu critiques le prophète, et donc je crois qu'ils s'en sont, ils se sont quand même, la famille est repartie finalement assez vite, mais elle a dû abandonner son projet d'aller voir le lac.
Et plus surprenant encore, et je me souviens plus exactement si c'est à la suite de cette scène-là ou d'une autre, mais on voit des talibans qui tournent les talons et qui maugréent, et vous avez le son, vous les filmez de dos, et ils sont en train de dire on peut pas traiter les femmes comme ça, et ce sont des talibans qui disent ça.
Oui, mais c'est important aussi de rappeler ça, parce que je rappelle que c'est notre seule source d'espoir pour nous, les gens qui travaillons sur l'Afghanistan. Si on ne peut pas compter sur ou le pourrissement du mouvement ou le pragmatisme de certains agents qui, n'ont pas grandi nécessairement dans les mêmes environnements, pas forcément dans le sud, pas forcément à l'est, et qui ont une expérience en ville, c'est vrai qu'on rencontre très souvent, alors moins maintenant parce que c'est les agents qui ont été écartés, mais moi je me rappelle très bien au début d'avoir interviewé des talibans qui parlaient presque anglais, qui parlaient persan, qui me regardaient dans les yeux, qui avaient des enfants qui faisaient des études, donc il y a définitivement au sein du mouvement taliban ces divisions, qu'on rencontre très souvent au quotidien d'ailleurs.
Des talibans et des hommes qui n'en sont pas, mais qui veulent vraiment faire en sorte que leurs femmes conservent un minimum, j'allais dire, de liberté, mais ne serait-ce que pouvoir continuer à apprendre à lire et à écrire. Quand il s'agit de petites filles, on voit un père, il est assis au sol avec elle et il lui tient la main en l'encourageant. C'est bien ma fille, en disant qu'il faut continuer à apprendre à lire. Il y a aussi ce pharmacien qui permet aux femmes de se réunir en cachette dans son arrière-boutique pour apprendre la médecine. Certains pensent vraiment qu'il est possible de convaincre les talibans progressivement en discutant avec eux, comme Shahir Zaïn, que vous avez rencontré. Il est éditorialiste, directeur du groupe Kilid Media, et il a obtenu des talibans, dit-il, non seulement que ces médias continuent à travailler, mais aussi qu'ils maintiennent à leur poste les journalistes femmes.
Les dirigeants de plus de 20 pays devraient se réunir lundi à Sharm el-Sheikh en Égypte pour discuter de la fin de la guerre à Gaza et examiner le plan de paix américain.
Obtenir la licence de ma radio, ce n'était pas un processus facile. Ils étaient méfiants. Les voix de femmes étaient interdites dans le Sud. Il y avait des pressions venant du Sud pour restreindre l'accès des femmes aux médias. Et moi, j'étais assis face aux officiers du renseignement. J'ai dû apporter des preuves que je n'avais jamais quitté le pays, que j'étais resté ici, que j'avais combattu les Soviétiques, que j'avais été un bon compagnon de lutte comme eux, et un bon musulman. Ça a aidé. Et là, peu à peu, la glace a commencé à fondre, et à la fin, ils m'ont dit « On ne vous arrêtera pas ».
Est-ce que beaucoup d'interdits ont été décrétés, mais pas appliqués, comme celui de la présence des femmes dans les médias, Solène Chalvon-Fioretti ?
Oui, alors malheureusement, c'est clair, parce que d'abord, il y avait des interdits qui étaient complètement absurdes. C'est-à-dire, ils ont interdit aux femmes de passer le permis de conduire. Bon, moi, en 15 ans d'Afghanistan, j'ai jamais vu une femme conduire une voiture. Donc il y avait des interdits qui étaient absurdes, notamment par exemple l'interdiction de jouer aux échecs. On voit quasiment pas de jeux d'échecs en Afghanistan, mais bon, j'allais dire malheureusement les interdits les plus graves, ceux-là ont été très très appliqués, parce qu'il n'y a pas une école publique qui tourne en Afghanistan, pas même par exemple à Bamiyan, qui est une région chiite historiquement plus ouverte et avec un gouverneur assez pragmatique. Donc les interdits, c'est vrai, dépendent vraiment des gouverneurs locaux, en fait. Mais là encore, bon, on peut pas trop espérer. Moi, j'ai cru à un moment que c'est ça qui permettrait d'offrir encore, enfin de voir émerger des résistances, ou en tout cas une opposition sociale. C'était le fait que les interdits soient pas appliqués partout de la même manière. Mais le problème, c'est qu'il y a une telle volonté de centralisation, qu'on voit d'ailleurs maintenant avec ce code pénal, hein, écrit, qui est complètement historique dans le mouvement taliban qui vient d'être diffusé, c'est que vraiment l'émir envoie des collèges d'ouléma, c'est-à-dire des religieux par gouvernorat, que vous voyez d'ailleurs quand vous allez sur place, et ils viennent durcir les conditions pour les gens, ils viennent mettre la pression aux gouverneurs locaux. Donc c'est difficile, mais je voudrais juste revenir sur cet extrait parce qu'il est important pour moi. C'est très rare de rencontrer encore des gens de l'élite. En Afghanistan, il n'y a plus d'élite depuis très longtemps, depuis des décennies avec la guerre, mais même la classe moyenne, finalement, elle a vraiment disparu. Et cette parole, elle est très courageuse de sa part, parce qu'en substance, cet homme, il dit quoi ? Il dit « on doit apprendre à travailler avec eux ». On n'a pas le choix. C'est pas quelqu'un qui souhaite le retour de la guerre civile. Et pourtant, croyez-moi, les gens comme lui, c'est vraiment ce que les talibans ont dans le viseur. Et donc lui, il subit, à la manière d'ailleurs de certains Iraniens, on entend ça en ce moment, lui, il subit à la fois l'extrême violence de ce régime taliban, qui en ligne de mire un homme qui fait travailler des femmes avec des voix de femmes. La voix, vous le savez, fait partie des décrets. Les voix de femmes sont interdites dans le sud publiquement. Et en fait, il subit aussi l'opprobre de la diaspora afghane, bien sûr, qui est partie dans de très grandes souffrances et de très grands traumatismes, et qui ne souhaite qu'une chose, évidemment, c'est une intervention, ou en tout cas que tout le monde condamne et isole ce régime. Et donc lui, il subit une très grande violence communautaire sur les réseaux de la diaspora, pour qui il passe comme un traître. Je rappelle une autre Afghane que vous aviez fait venir d'ailleurs à France Culture, Amida Aman, une femme magnifique qui a gardé des radios pour femmes communautaires en Afghanistan, et qui subit aussi cette violence de la diaspora. Donc ces élites, ceux qui n'en restent, sont en plus prises entre deux feux, et j'étais vraiment heureuse pour ça de l'avoir dans le film.
Il y a quelques femmes journalistes qui ont pu continuer leur travail défendu par des hommes comme Shahir Zain, mais sinon la plupart des femmes qui avaient des métiers autres que les métiers du textile, par exemple, on va l'entendre, ont dû abandonner, comme cette femme qui doit jouer de la machine à coudre, c'est pas du tout ce pour quoi elle a fait des études.
Moi aussi, je teste des expériences. J'exploite les mêmes qualités que j'avais en tant que chimiste. J'étais spécialisée dans les formules qui composent l'aspirine. Quand j'actionne la roue de ma machine à coudre, plein de pensées m'assaillent. Et la première, c'est « qu'est-ce que je fais ici ?» Je la regarde tourner et je me demande, si j'étais dans un autre pays, dans une autre vie, qui aurais-je été ? Où aurais-je été ?
Une femme chimiste qui ne met plus ses compétences ou ses connaissances au service d'une société, comme tant d'autres femmes dans tant d'autres domaines, quel pays et quelle nation cela a commencé d'ores et déjà à créer, Solène Chalvon-Fioriti ?
Ben, c'est... je crois que c'est assez bien raconté, c'est-à-dire c'est des gens qui sont aussi des femmes qui sont à la fois très très courageuses. Là encore, le courage, je note que c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour parler par exemple de l'Iran, des Iraniens, des Iraniennes. À raison, évidemment, je suis pas débile, c'est un courage physique extraordinaire, mais il en faut du courage quand même depuis 5 ans pour aller dans des ateliers. Dans des écoles secrètes, dans des caves, avec des bouquins qui sont déchirés, dans un pays où 8 personnes sur 10 ont faim, pour des perspectives inexistantes, puisque vous allez apprendre pour faire quoi derrière les talibans. En fait, vous l'avez dit, ils ont interdit la plupart des métiers. Attention, il y a quand même encore 60% de fermiers et de fermières dans ce pays. Croyez-moi qu'ils n'ont pas interdit aux paysannes de travailler. Il y a effectivement en fait ces ateliers textiles qui deviennent, pour nous, à force de tout voir s'effondrer, qui deviennent quand même des endroits merveilleux, parce qu'en fait, on dit des ateliers textiles. Donc, juste pour le rappeler à nos auditeurs, le textile est permis aux Afghanes, puisque les tailleurs hommes n'ont plus le droit de prendre les mesures, bien sûr, des corps féminins. Et donc, on trouve à l'intérieur de ces ateliers textiles des filles qui étaient juges, chimistes, là, comme on l'entend, mais aussi, voilà, des femmes qui étaient déjà dans les métiers du secteur privé. Et donc, ça crée quand même des espaces où elles viennent avec leurs gamines, et du coup, leurs gamines révisent des cours pendant que les mamans travaillent. En fait, ça devient vraiment des petites bulles, des espaces de liberté. Bon, tout ça, ne nous mentons pas, reste extrêmement chiche, parfaitement désespérant. Et puis surtout, là encore, comme c'est raconté par ce diplomate dans le film, qui vit à Kaboul, hein, Jean-François Cotin, on n'est jamais à l'abri d'un gouverneur local qui change, qui prenne en grippe, parce qu'il savait évidemment très bien que ces ateliers existent et qu'il les fasse fermer du jour au lendemain.
Cet ancien ambassadeur de l'Union européenne qui vit toujours à Kaboul et qui vous dit que par ailleurs, malgré tout, le pays reste géré, alors qu'on n'y croyait pas quand ils sont revenus au pouvoir, les talibans, qu'ils réussiraient notamment à travailler avec les anciens fonctionnaires de l'administration. L'un d'entre eux vous dit, c'est au service des impôts, regardez, on fait nation avec les anciens qui nous combattaient de la République. En fait, on arrive à travailler ensemble, on fait nation. Solène Chalvon-Fioretti, on arrive vraiment à la fin de cet entretien. Il se trouve qu'on en a très peu parlé parce que cette déclaration de guerre a été éclipsée par une autre 2 jours plus tard, mais le Pakistan a déclaré une guerre ouverte à l'Afghanistan le 26 février. À quoi ressemble cette guerre, de ce qu'on en sait, des échos que vous avez, des gens qui sont là-bas?
En fait, ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire ces camps de réfugiés dans lesquels, en plus, désormais, l'ONU est en train de réduire sa présence et qui grossissent à vue d'œil, parce que, en fait, à chaque crise et à chaque attaque, et c'est encore arrivé ces derniers jours, le Pakistan, en fait, renvoie massivement les Afghans qui font vraiment l'objet de campagnes de rafles à Islamabad, qu'on voit là encore dans le film, avec des voitures qui passent, des gens qui prennent des amendes parce qu'ils hébergent des Afghans, alors qu'il y a traditionnellement, pour avoir habité au Pakistan, je peux vous le dire, une tradition de fraternité avec le peuple afghan. Là, c'est en train de vraiment, malheureusement, de virer très, 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 très vinaigre, pour, si je peux me permettre, pour ces milliers d'Afghans qui se retrouvent côté Afghanistan maintenant, délaissés par les talibans, délaissés par l'ONU, et dans des conditions matérielles vraiment indigentes, terribles.
Et notamment Laïlé, cette sage-femme de Kaboul que vous suivez tout au long de votre documentaire comme un fil rouge. Elle réussit à s'échapper vers le Pakistan. Mes filles méritent mieux que les écoles secrètes et les vies cachées, vous dit-elle. Merci beaucoup, Solène Chalvon-Fioretti. Le pays taliban, votre documentaire co-réalisé avec Marianne Jetti, sera diffusé ce dimanche à 21h sur France 5. Il sera ensuite en ligne sur le site de France Télévisions et on en mettra le lien sur la page de Culture Monde. Merci.
Merci à vous, merci beaucoup.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه حجالی که به من بزرگ و واژه‌ی بهنامر هستم.
سیاست
نه
ضعیفم،
نه من هستم.
La chanteuse afghane Ariana et sa chanson Zanastam, Je suis une femme. Cette chanteuse a été menacée plusieurs fois de mort. Elle a quitté son pays en 2021. La vie elle-même commence avec moi, dit-elle. Pourquoi me considères-tu comme la dernière? On quitte l'Afghanistan et ses fleurs, ses roses de Damas, ses champs de coquelicots, pour évoquer le Liban où cet hiver, la neige a cassé des branches d'arbres. Celle du cerisier bourgeonnait déjà. On la replantera dans un autre sol, a dit une éditorialiste de L'Orient Le Jour, la journaliste Fifi Aboudiam, un homme qui fuyait le sud du Liban. Cette journaliste raconte donc cet habitant qui prend avec lui une branche de cerisier pour la replanter ailleurs, sauver quelque chose à défaut de sauver quelqu'un, alors que le Hezbollah a repris ses tirs de roquettes et que l'armée israélienne avance au sol pendant que ses avions bombardent.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Ces derniers mois, nous avons attaqué le Hezbollah presque quotidiennement. Nous l'avons attaqué parce qu'il a violé les accords de cessez-le-feu. Ils ont essayé de se densifier et de se réhabiliter. Ces derniers jours, ils ont ouvert le feu sur Israël. Ils savaient dans quoi ils s'engageaient. Nous nous y sommes préparés et ils en payent actuellement le prix fort. Nous allons leur faire encore plus mal et nous n'abandonnerons pas. Nous n'abandonnerons pas notre demande de désarmement du Hezbollah et nous continuerons d'agir jusqu'à ce que cette menace soit levée et jusqu'à ce qu'il soit désarmé.
Le porte-parole de l'armée israélienne, avant-hier, lors d'une conférence de presse, il a depuis donné l'ordre d'évacuer aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth. Des embouteillages infinis sont formés hier dans l'après-midi. Bientôt, la banlieue sud ressemblera à Khan Younes, la ville du sud de la bande de Gaza, a menacé sur ses réseaux le ministre israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich. L'armée israélienne réplique ainsi aux attaques du Hezbollah, les attaques qu'elle lui reproche de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu. Elle-même, l'armée israélienne, n'a jamais respecté le cessez-le-feu de novembre 2024 dans les territoires du sud du Liban. Plus de 400 civils ont été tués par Israël depuis, mais c'est la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei qui a décidé le Hezbollah à entrer en guerre dans la nuit de dimanche à lundi. Le gouvernement libanais lui demande aujourd'hui de rendre les armes, tout comme manifestement une partie de la population chiite. Bonjour Agnès Levallois.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranéennes et Moyen-Orient et chargée de cours à Sciences Po Paris. Nous sommes également depuis Beyrouth avec Anthony Samrani. Bonjour.
Bonjour Julie.
Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour. Et bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Notre partenaire du journal Le Monde. On commence avec votre éditorial.
Oui,
comme chaque matin.
Julie, c'est un immense exode. 100 000 Libanais ont déjà quitté le sud après l'ordre d'évacuation totale lancé par les autorités israéliennes et 400 000 devraient maintenant quitter la banlieue sud de la capitale, qui est le fief du Hezbollah. Alors, le pays du Cèdre bascule dans la guerre. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Hezbollah avait lancé plusieurs missiles et roquettes en direction de l'État hébreu pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. La réponse israélienne est terrible. Ni les Houthis du Yémen, ni ce qui reste du Hamas à Gaza ne se sont jusqu'ici impliqués aux côtés de l'Iran. Seul parmi les proxys de Téhéran, le Parti de Dieu s'est lancé dans cette guerre. C'est un suicide pour le Liban, comme l'a titré le grand quotidien francophone L'Orient le Jour. Nombre de Libanais accusent désormais assez ouvertement le Parti de Dieu pour cet engrenage de la guerre. Il est bicéphale, avec d'un côté une branche politique, avec deux ministres, 13 députés, et de l'autre, une branche militaire classée comme terroriste, qui était censée désarmer après les accords de cessez-le-feu de novembre 2024. Mais au Hezbollah, apparemment, le fusil commande sur le politique. Cet alignement sur la stratégie du chaos portée par le régime des Mollahs a des conséquences dévastatrices. Israël, qui avait multiplié les violations du cessez-le-feu, n'attendait qu'un tel prétexte pour lancer une opération massive pour définitivement écraser la menace sur sa frontière nord. Emmanuel Macron a appelé le Premier ministre israélien à ne pas étendre la guerre au Liban et à ne pas mener une opération terrestre qui serait une faute stratégique. Les liens profonds unissent le Liban à la France, qui est l'un des derniers relais historiques de l'influence de la France dans la région. Mais celle-ci a-t-elle encore vraiment des leviers pour peser et se poser en possible médiateur entre les autorités libanaises, Israël et les États-Unis pour éviter le pire?
Merci Marc Semo. Alors pour commencer, peut-être avec vous Anthony Samrani, qui est au plus près des opérations, en particulier au plus près de la banlieue sud de Beyrouth. Est-ce qu'on peut, avec vous, commencer par faire une liste, alors brève et non exhaustive, mais de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on ne comprend pas, de ce qui se passe depuis la nuit de dimanche à lundi, nuit au cours de laquelle le Hezbollah a repris ses tirs de missiles contre Israël, que ce soit l'objectif militaire d'Israël, que ce soit la progression de l'armée israélienne, y compris au sol? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et peut-être que pour changer, on peut commencer par ça.
La question principale, je pense, à laquelle nous n'avons pas encore de réponse, c'est est-ce que cette opération sera quelque part une photocopie de celle qui a eu lieu au Liban il y a un an et demi, qui était une opération qui a fait énormément de dégâts, mais qui restait plus ou moins ciblée de la part d'Israël, ou est-ce qu'on va vers une opération de plus grande ampleur, sachant qu'on a, on a deux acteurs aujourd'hui qui sont dans une logique jusqu'au boutiste, le Hezbollah, parce qu'il s'est suicidé, et le Liban avec lui, au service de son parrain iranien et qu'il considère que c'est sa dernière bataille, donc qu'il n'a plus rien à perdre. Et de l'autre côté, Israël qui veut définitivement en finir avec le parti et qui veut mettre en place une stratégie, on l'a vu hier avec l'évacuation de plusieurs centaines de milliers de personnes dans la banlieue sud. D'un point de vue opérationnel, ça pose quand même deux questions très concrètes. Quel type de bombardement Israël va mettre en œuvre? Hier, et lorsque vous écoutez aussi les propos de Smotrich, vous pouvez craindre l'application d'une doctrine Gaza ou d'une doctrine d'Ahrier. La doctrine d'Ahrier, c'est ce que les Israéliens avaient conceptualisé en 2006. C'était l'idée d'infliger des dommages considérables à des zones civiles afin de retourner la population contre le parti. Ce n'est pas ce qu'ils avaient fait lors de la dernière guerre et je pense que ce n'est pas ce qu'ils feront cette fois aussi. D'une part parce que leur aviation est massivement mobilisée en Iran et je crois que ça reste l'objectif stratégique majeur. Le Liban est beaucoup plus petit et il n'y a pas une course contre la montre au Liban, ce qui est le cas en Iran. D'autre part, ça pourrait avoir des effets contre-productifs pour Israël. La deuxième question qui se pose, c'est effectivement cette incursion terrestre à venir. Jusqu'où les Israéliens iront? À mon sens, à minima, ce sera la création d'une zone tampon, comme ils l'ont fait à Gaza, comme ils cherchent à le faire en Syrie, etc. Ça peut aller encore plus loin. Cette zone tampon, elle peut aller jusqu'au Litani. Donc le Litani, c'est la partie la plus au sud, le fleuve qui sépare la partie la plus au sud du Liban, et c'est ce qu'ils avaient fait en 78. Ils pourraient même aller encore plus loin, jusqu'à Beyrouth, comme ils l'avaient fait en 82, même si jusqu'à maintenant, cela me semble tout de même très improbable.
Donc bien au-delà donc de la zone tampon qu'elle avait déjà créée, cette armée israélienne sur 5 kilomètres en 2024, c'est vrai, Agnès Levallois, qu'il y a un flou sur la façon dont les choses sont présentées. On nous dit que des combats directs ont été signalés dans la ville libanaise de Riyam hier à 6 kilomètres de la frontière israélienne, que la FINUL signale la présence des forces israéliennes dans plusieurs villages et localités de la bande frontalière, mais que l'invasion terrestre est imminente. Alors elle est imminente ou elle a commencé ?
Alors difficile, effectivement, n'étant pas sur place, de savoir exactement et aussi de comprendre véritablement la stratégie israélienne en la matière. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a suite, effectivement, au comportement du Hezbollah qui est rentré en guerre contre Israël dans la nuit de dimanche à lundi, il y a une volonté d'Israël de montrer clairement qu'il n'acceptera pas cela et de profiter de cette occasion. Vous l'avez, tout le monde l'a rappelé, le cessez-le-feu n'a jamais été respecté par Israël après la guerre de septembre 2024. Et donc l'occasion...
400 morts civiles depuis.
Voilà. Et donc l'occasion là pour Israël de continuer à dire et de réaffirmer qu'il ne laissera pas faire, avec un objectif de faire disparaître le Hezbollah. Et là, on peut tout de suite se poser des questions parce qu'on sait très bien qu'Israël ne pourra pas faire disparaître le Hezbollah, tout comme il n'a pas réussi à faire disparaître le Hamas de la bande de Gaza, en dépit des bombardements d'une violence inouïe qui durent depuis 2 ans et demi et qui ont causé la mort de plus de 70 000 morts. Donc on est dans une stratégie israélienne aujourd'hui qui est véritablement de vouloir contrôler l'ensemble de ces territoires, territoires palestiniens, Syrie, Liban, avec ces fameuses zones présentées comme des zones de sécurité par Israël, avec l'idée que ces pays doivent accepter cet état de fait sans pouvoir réagir, parce qu'évidemment l'armée libanaise aujourd'hui n'est absolument pas en état de pouvoir arrêter cela. C'est une armée qui est en train de se reconstituer depuis qu'il y a ce nouveau gouvernement et qui tente de pouvoir s'imposer sur l'ensemble du territoire, qui a tenté depuis le cessez-le-feu de désarmer le Hezbollah, qui a été en partie désarmé, mais pas complètement, et on le voit, puisqu'il a encore des moyens à lancer, si je puis dire, contre Israël. Et donc, on est dans une période extrêmement, je trouve très grave, dans le sens où on a un Israël qui se sent permis de faire absolument tout sans aucune limite. Et c'est vrai que là, le Hezbollah lui a donné un prétexte en or pour pouvoir continuer, et en justifiant finalement cette stratégie qui consiste à vraiment tout détruire. Et je crois que le parallèle avec Gaza s'impose dans cette volonté de détruire absolument tout sur cette fameuse zone de sécurité, comme il y a cette zone de sécurité à Gaza, et de faire en sorte que les Libanais ne puissent plus revenir dans cette zone qui va être entre 5 km et 30 km. Je pense que les 5 km aujourd'hui, c'est largement dépassé et que ça va aller au-delà.
Détruire tout, y compris en empoisonnant les terres agricoles avec du désherbant, en interdisant aux paysans l'accès à leur récolte d'olives, d'oranges ou de tabac, comme le rappelait un éditorial de L'Orient Le Jour. Marc Semo.
Oui, alors... Aujourd'hui, qu'est-ce que peuvent faire les autorités libanaises face à ça? D'abord, est-ce que c'est encore un sens de désarmer le Hezbollah? Et deuxièmement, la France a leur a donné un peu de matériel, un peu de moyens, mais elles sont totalement impuissantes. Et qu'est-ce que peut faire donc le gouvernement?
C'est bien la question, c'est que on a bien vu, et c'est ce que disait le gouvernement libanais, mais Anthony en parlera évidemment mieux que moi, c'est que le fait que Israël n'ait cessé de rompre le cessez-le-feu n'a pas aidé le gouvernement libanais dans sa tâche de désarmer jusqu'au bout le Hezbollah, puisque le Hezbollah venait régulièrement voir le gouvernement en disant « Vous êtes gentil, vous voulez qu'on désarme, mais regardez, Israël passe son temps à rompre le cessez-le-feu, donc il faut qu'on garde des capacités. » Donc on est dans une impasse totale.
Mais surtout, Anthony Samrani, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu donc cet appel du gouvernement, ce communiqué officiel qui a été précédé d'un vote pour demander officiellement au Hezbollah de désarmer, mais quand un soldat de l'armée libanaise et un combattant du Hezbollah se rencontrent, mettons qu'ils se croisent sur une route à l'entrée de ces routes qui mènent vers le sud du pays auquel il s'agit de restreindre l'accès aussi du Hezbollah, l'armée libanaise est positionnée, il se passe quoi? Eux ne sont pas en guerre les uns contre les autres officiellement, donc comment cette mesure de désarmement est-elle mise en place?
Écoutez, je veux vraiment peser mes mots parce qu'on est sur un sujet. Je pense qu'on est sur un sujet sensible et j'ai pas du tout envie de donner le sentiment de donner du crédit à la politique de Netanyahou et je partage tout ce qui a été dit sur cette politique que ce soit à Gaza et au Liban. Mais il y a quand même une responsabilité du Hezbollah dans cette affaire qui est immense, qui est vraiment immense. C'est un parti, encore une fois, dont le chef a menacé cette dernière année à une dizaine de reprises le reste du Liban de déclencher une guerre civile si on touchait à ses armes. C'est un parti qui a été averti dès le début de la guerre par plusieurs canaux diplomatiques. Si vous rentrez dans cette guerre, ça va être catastrophique, vous allez en payer le prix, tout le Liban en payera le prix, la population, Israël s'est engagé à ne pas entrer tant que vous n'entrez pas, etc., etc. Et c'est un parti qui a prouvé à quel point il n'en avait rien à faire, ni du Liban, ni de sa base populaire. Le gouvernement a aussi, à mon sens, une responsabilité dans la crise actuelle. Il a fait beaucoup plus que ce qu'ont fait tous les gouvernements par le passé. Il y a eu un désarmement, on le voit malheureusement, qui était incomplet de la zone au sud du Litani. Il y a eu une volonté de rappeler que l'État doit avoir le monopole de la violence légitime. Certes aussi, le gouvernement, il a des faiblesses structurelles qui sont plus, à mon sens, des faiblesses politiques que militaires. C'est la prise de décision qui est extrêmement difficile au Liban, puisque tout le monde est autour de la table. Donc, au sein du gouvernement, vous avez des ministres du Hezbollah et des alliés du Hezbollah qui, bien sûr, ne sont pas les premiers à vouloir désarmer le parti. Mais je crois que le gouvernement aurait pu en faire plus. Certes, ça aurait provoqué des tensions en interne. Certes, ça là, aurait créé un risque d'affrontement entre la milice et l'armée, mais le scénario qui se dessine, à mon sens, est bien plus catastrophique pour le Liban. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que le gouvernement peut faire encore quelque chose? Oui, il peut faire encore quelque chose. Et à mon sens, plus il fera vite, moins il laissera d'espace à Israël pour le faire. Le problème, c'est que plus les jours passent et plus le gouvernement va être pointé du doigt comme un allié objectif d'Israël s'il agit désormais. Donc il fallait le faire avant et il faut surtout le faire maintenant au plus vite, avant justement qu'Israël ne bombarde, ne tue des civils, n'occupe le territoire, car on sait très bien que les Israéliens s'en fichent complètement de chaque règle et si l'on attend des Israéliens qu'ils se raisonnent ou que quelqu'un les raisonne, on n'avancera jamais au Liban.
Marc Semour rappelait tout à l'heure que le Hezbollah est composé d'une branche armée militaire et d'une branche politique. Agnès Levallois, est-ce qu'on sait si les ministres du Hezbollah sont intervenus dans la rédaction du communiqué, ou des alliés, le parti Hamal, sont intervenus dans cette rédaction du communiqué qui interdit toute activité militaire et sécuritaire du Hezbollah et qui demande son désarmement, autrement dit, quel débat en interne et entre la branche politique du Hezbollah et la branche militaire, mais aussi à l'intérieur de ces deux branches, cette décision du Hezbollah, la branche militaire, de riposter et d'ouvrir le feu, de lancer des roquettes dans la nuit de dimanche à lundi, a pu provoquer.
Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a quand même des tensions au sein de ce mouvement, puisque pour certains, Ils considèrent qu'il s'agit véritablement d'un suicide politique de la part du Hezbollah, puisque la contestation au sein même de la société libanaise et au sein même de la communauté chiite, il y a beaucoup de Libanais aujourd'hui qui considèrent que, une fois de plus, le Hezbollah les conduit dans une impasse, et non seulement dans une impasse, mais dans une situation de violence extrême, comme on l'a vu lors de la guerre de septembre 2024, où de nombreux Libanais, y compris chiites proches de Hezbollah, étaient vent debout contre cette décision de rentrer en guerre contre Israël en soutien au Hamas, estimant que cette guerre n'était pas la guerre du Liban et que les conséquences ont été absolument catastrophiques. Donc cette répétition, si je puis dire, là, avec l'intervention du Hezbollah contre Israël en soutien à l'Iran, est très 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 mal perçue par de nombreux Libanais. Et moi, ce que je vois à la clé, c'est que du coup, ça porte les germes de tensions extrêmes au sein même de la société libanaise entre ceux qui soutiennent encore le Hezbollah dans cette stratégie, mais qui, à mon avis, mais ça Anthony, je pense, le dira mieux que moi, sont de moins en moins nombreux, et le reste de la population libanaise qui n'accepte pas ça. Et donc les ministres du Hezbollah dans tout ça, ils sont évidemment complètement coincés parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont en train de perdre quand même ce soutien et cette présence politique pour laquelle ils se sont battus, puisqu'il y a toujours eu cette idée de dire nous on est un parti avant tout libanais, on a des représentants au Parlement et donc on a des ministres. Et le Hezbollah, en lançant cette opération, montre qu'il est avant tout un parti iranien qui répond à l'injonction iranienne de dire, et pour l'Iran c'est important, de montrer qu'il a encore un allié, puisque Marc le rappelait tout à l'heure, personne d'autre n'est intervenu en soutien à Téhéran depuis la dernière opération. Donc pour l'Iran, c'était quand même, me semble-t-il, indispensable de montrer qu'il avait encore un allié, même si ça crée des tensions à l'intérieur même du mouvement.
Bien, c'est l'occasion peut-être de vous montrer, soumettre la caricature du jour, puisque chaque vendredi nous sommes en partenariat avec l'association de dessinateurs de presse Cartooning for Peace, notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes. Et cette semaine, un dessin signé Fares Garabet, dessinateur syrien. Ce qu'on peut noter, Anthony Samrani, vous nous direz d'ailleurs comment peut-être le Hezbollah peut ou pas s'inspirer de ce qui s'est passé en Syrie, non pas désarmement, mais le HTS qui a constitué un gouvernement et son chef qui est aujourd'hui président de la Syrie. Mais sur ce dessin, on voit feu Ali Khamenei au bord d'une falaise et qui vient de pousser dans le vide un homme qui représente le Hezbollah. Anthony Samrani, qu'est-ce que vous souhaitiez en dire aussi en réaction à ce que disait Agnès Levallois? Le Hezbollah, dans cette nuit dimanche à lundi, a directement pris ses ordres de la République islamique d'Iran, ou considère que la mort d'Ali Khamenei était une ligne rouge qui nécessitait qu'il reprenne les armes?
Je dirais que les masques sont tombés. Je dirais que le parti a de multiples identités. Il est très fort pour les mettre en avant en fonction des contextes et des publics auxquels il s'adresse. Il est parfois un parti politique, parfois un mouvement de résistance contre l'occupation israélienne, parfois une milice chiite en Syrie, en Irak, au Yémen, qui est dans une logique ultra-communautaire. Parfois un mouvement social qui a des écoles, qui a des mouvements de scouts, qui fournit des aides à la population. Mais in fine, quand les choses deviennent vraiment importantes, comme en 2006, comme le 8 octobre 2023, comme ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, in fine, il est une excroissance de la République islamique. Alors oui, il y a des dissensions au sein du Hezbollah. Oui, tout ce qu'on appelle l'aile politique et aujourd'hui les figures qui sont mises en avant, que ce soit le secrétaire général Naim Qassem, le chef du Parlement, enfin le chef du groupe parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad, sont des hommes qui sont dans cette logique, mais concrètement, ce ne sont pas eux qui tiennent le parti, ce sont les Iraniens, ce sont les gardiens de la révolution iranienne qui le tiennent. Ce sont eux qui, d'après nos informations, ont décidé de riposter. Directement. Encore deux choses à dire peut-être sur le dessin. D'une part, cela montre le peu de considération que l'Iran a pour le Liban, puisque ce n'est même pas une carte. Encore une fois, cela pourrait se comprendre d'un point de vue stratégique si c'était une carte qui permettait à l'Iran d'inverser la donne ou au moins d'infliger des dégâts suffisamment importants à Israël pour que cela ait un impact d'un point de vue militaire. Mais ce n'est même pas le cas. C'est juste, je sacrifie ma carte libanaise pour rappeler à tout le monde que je suis aussi présent au Liban et que si vous me faites la guerre, j'ouvrirai des fronts un peu partout. La deuxième chose, c'est que c'est quand même un peu comique, un peu cocasse que ce soit un Syrien qui ait fait ce dessin et que la Syrie, justement, dans ce moment où tout le Moyen-Orient est embrasé, la Syrie reste à l'écart. Le président Ahmad el-Sharia a publié une photo il y a quelques jours qui était très parlante, où on le voit tranquillement sur sa chaise en train de lire les journaux. Et est-ce que la transformation qui a eu lieu au sein du mouvement de HTC, est-ce qu'elle est possible au sein du Hezbollah? C'est-à-dire, est-ce qu'un mouvement djihadiste peut devenir finalement un mouvement politique, même avec une tendance communautaire assez radicale, c'est-à-dire qu'il deviendrait le parti qui représenterait les chiites du Liban et sans lien direct avec l'Iran. C'est une option dont nous discutions beaucoup cette dernière année. Il y avait des tendances comme ça au sein du parti. Est-ce que ce sera possible par la suite? C'est une option peut-être envisageable, mais pour que ce soit le cas, il faudra que le lien soit totalement coupé entre la République islamique et le parti.
On mettra en ligne ce dessin pour que les auditeurs et auditrices puissent se faire une idée, avoir davantage comprendre ce que vous nous en dites, mais vos propos sont limpides. Agnès Levallois, par ailleurs, les Syriens sont quand même concernés de près, puisque des réfugiés syriens qui vivaient au sud Liban ont dû eux aussi fuir les combats et l'arrivée de l'armée israélienne ces derniers jours.
Oui, bien sûr, et la Syrie est obligée de suivre ça de très près. Il y a quand même une frontière entre les deux pays. Il y a un nombre considérable de réfugiés syriens qui sont toujours au Liban et qui ne sont pas rentrés en Syrie, pour certains d'entre eux. Donc là, on voit effectivement un mouvement, certains Syriens qui considèrent que le moment est venu de rentrer en raison de cette situation très, très, très difficile, et le mot est faible. Je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué Anthony. C'est que je pense qu'il y a une grosse différence entre la Syrie et le Liban qui pourrait permettre éventuellement une mue du Hezbollah, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Syrie, avec le fait qu'un mouvement, un parti comme HTS a pu venir arriver au pouvoir. C'est que dans le cas du Liban, on est encore dans un système communautaire. Et le fait que toutes les communautés se tiennent et veulent être autour de la table fait que je pense que le Hezbollah considère qu'il a des moyens de pression pour se maintenir et pour pouvoir garder sa particularité, parce que s'il n'est pas d'accord, aucune décision ne peut se prendre avec les autres forces politiques, parce que toutes se tiennent, et pour prendre la moindre décision, il doit y avoir un accord entre toutes ces forces politiques. Et donc cette complexité du jeu politique, dont on parle maintenant depuis des années, qui fait que ça bloque aussi l'évolution de ces institutions et la capacité de ce gouvernement à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir agir. Dans le cas de la Syrie, on n'est pas du tout dans ce même cas de figure où ce mouvement HTS a pu, avec Ahmed el-Sharia, prendre le pouvoir, s'imposer. Alors, il doit composer avec les autres partis de la Syrie, mais on n'est pas du tout dans ce même type de système politique. Et je crois que la grande difficulté pour le Liban, c'est comment sortir de ce système communautaire afin de trouver la voie d'un système politique permettant au gouvernement, du coup, d'être plus fort et pour pouvoir prendre les décisions indispensables qui s'imposent pour que le pays retrouve une certaine autonomie. Alors, vis-à-vis de l'Iran, évidemment, et que la rupture des liens se fasse avec l'Iran, mais aussi chaque autre communauté qui peut avoir des liens et qui, avec d'autres, et qui finalement empêche l'avancée et empêche la mise en œuvre de toutes ces réformes qui sont absolument indispensables pour que le Liban enfin puisse retrouver une vraie souveraineté et une vraie autonomie.
Marc Sémo.
Alors, dans cette situation, qu'est-ce que peut faire la France réellement? Et quel levier est là? Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle joue les médiateurs?
Moi, j'estime, et là, je suis...
Il a déjà appelé
très négatif.
Emmanuel Macron a déjà appelé Benjamin Netanyahu, oui, voilà. Mais qui est...
Oui, mais...
Voilà, c'est le minimum, mais ça ne veut pas dire que ça donne des résultats.
Oui, voilà, c'est ça.
Moi, je suis très, très sceptique sur la capacité ou sur les leviers dont disposerait la France pour faire quoi que ce soit. On voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, Israël fait ce qu'il veut, et c'est les États-Unis. Je rappelle d'ailleurs que le cessez-le-feu était parrainé par les Américains et les Français, et que les Américains ont accepté de donner un strapontin à la France pour que la France soit co-responsable de la mise en œuvre de ce cessez-le-feu. Or, on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, le cessez-le-feu a été rompu par Israël pratiquement tous les jours, avec plus de 400 morts côté libanais. Je n'ai pas vu, il y a eu quelques déclarations évidemment de la France pour dire que ça n'allait pas, mais de quels moyens a disposé la France pendant toute cette période pour dire à Israël, arrêtez, donnez une chance à ce cessez-le-feu. Peut-être que cette chance n'avait aucune possibilité de se concrétiser, mais au moins de laisser la chance à ce cessez-le-feu.
La France avait aussi des moyens de pression sur le Hezbollah pour dire désarmer et sur les autorités libanaises pour qu'elles mènent effectivement le désarmement. Comme le disait Anthony au début.
Oui, Anthony Sabrani, vous vouliez peut-être compléter depuis Beyrouth.
Non, je crois qu'Agnès a raison dans le sens où, enfin, nous en tant que Libanais, quel que soit ce qu'on pense d'Emmanuel Macron, c'est quand même le seul qui aujourd'hui se mobilise pour essayer d'épargner le Liban, et ça on peut le saluer. Mais effectivement, je vois pas du tout pourquoi les Israéliens aujourd'hui écouteraient les Français. Vous savez, il y a quelque chose qui a été mis en place à la fin de justement à suite au cessez-le-feu qui s'appelle un mécanisme donc de suivi du cessez-le-feu dans lequel il était censé y avoir les Américains, les Israéliens, les Libanais et les Français pardon. Et les Français ont été plus ou moins mis dehors. Donc aujourd'hui, ils ont très peu de marge de manœuvre, y compris sur le gouvernement libanais. Les vrais tuteurs au Liban, puisque le Liban, qu'on le veuille ou non, est un pays sous tutelle, les vrais tuteurs au Liban sont saoudiens, sont américains et d'un point de vue militaire sont israéliens.
Et en l'occurrence, dans le cadre du cessez-le-feu, les États-Unis ont fait de multiples pressions auprès du gouvernement libanais pour qu'il exige du Hezbollah que ce mouvement désarme. Est-ce qu'on peut aussi imaginer, Agnès Levallois, que cet appel au désarmement donc publié cette semaine soit aussi une façon de susciter un débat au sein de la communauté chiite, de créer des fissures, de faire en sorte que cette communauté chiite qui a très longtemps soutenu le Hezbollah et qui en général la soutient à mesure que l'armée israélienne avance et bombarde de plus en plus, enfin ce soutien ne fait qu'augmenter dans ces situations-là, faire en sorte que ce soutien se fissure, se brise, est-ce que parce que sinon on aurait pu se dire que l'armée libanaise allait elle-même désarmer le Hezbollah par la force.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée libanaise est composée de l'ensemble de la société libanaise. Hein. Donc, dans la troupe qui compose l'armée libanaise, vous avez des chrétiens, vous avez des sunnites, vous avez des chiites, vous avez des druzes. Donc, vous avez tout le Liban est représenté dans cette armée libanaise. Donc, cette armée libanaise dont la tâche a été de désarmer le Hezbollah, effectivement, c'est une tâche qu'elle a prise au sérieux dans la mesure de ses possibilités. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est que l'armée, pendant très longtemps, a été quand même sous-équipée, hein, puisque c'était pas l'objet de permettre à l'armée d'être suffisamment fournie en matériel, qu'il y a une volonté de la part des Français, avec financement saoudien, d'essayer de donner des moyens à l'armée, mais avec toujours l'arrière-pensée de la part de ceux qui soutenaient l'armée, en même temps de ne pas lui en donner trop, de peur que certaines de ses armes puissent un jour ou l'autre se retourner contre ceux qui les utilisent. Et donc, il y a toujours cette ambiguïté qui dit « Ok, on vous aide et il faut désarmer le Hezbollah, mais pour ça, il faut quand même donner des moyens importants à l'armée. » Et il faut faire suffisamment confiance aussi à ce gouvernement pour estimer qu'il est en mesure de mener à bien cette opération, alors que le pays est un pays qui est complètement coincé entre des intérêts divergents. Et même si le gouvernement de Nawaf Salam essaye de faire le maximum pour retrouver un fonctionnement digne de ce nom, quand je dis ça, digne d'un gouvernement, on voit bien que tous les enjeux et toutes les contraintes qui s'exercent sur ce gouvernement sont très lourdes. Donc oui, bien sûr, il faut que l'armée désarme, mais il faut aussi lui donner les moyens de le faire et de pouvoir avoir suffisamment de force pour imposer au Hezbollah d'accepter ce désarmement. Et là, on voit bien qu'on est dans une situation avec Israël, et je pense qu'il faut le rappeler quand même, qui, en permanence à tenter de mettre à mal ce processus de désarmement en bombardant. Et quand je dis ça, je ne sous-estime absolument pas la responsabilité du Hezbollah dans tout ce qui se passe. C'est pas du tout pour dédouaner le Hezbollah de sa responsabilité, mais il faut aussi être cohérent. Si on veut le désarmer, il faut donner les moyens d'y arriver.
Le Premier ministre Nawaf Salam qui a fait cette tentative de démonstration d'autorité en interdisant les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah. La décision de guerre et de paix relève exclusivement de l'État, dit-il, tout comme le monopole des armes, comme vous nous le rappeliez, Anthony Samrani. D'ailleurs, que dire à ce sujet ou est-ce que c'est arrangé dans la liste des questions qu'on se pose et auxquelles on n'a pas de réponse, mais de l'arsenal aujourd'hui militaire du Hezbollah, de ce qu'il est question de détruire en cas de désarmement et ce que le Hezbollah peut utiliser aujourd'hui dans sa guerre avec l'État hébreu.
La question m'est adressée.
Oui, Anthony Samrani. Pardon.
Oui, de ce que l'on voit, encore une fois, là aussi, il y a de grands points d'interrogation, mais de ce que l'on voit, le parti n'est plus l'ombre que lui-même. Il multiplie les attaques contre Israël, mais elles n'ont pas vraiment d'effet militaire ou un effet très faible. La propagande du parti dit tous les jours même que certains miliciens se sont introduits en territoire israélien, ont détruit des chars. Je pense qu'il faut prendre toutes ces informations avec beaucoup de recul et de scepticisme. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le parti a encore des hommes armés, plusieurs milliers, à son apogée. On parlait de 20 000 à 30 000 hommes armés. Aujourd'hui, j'en parlais encore récemment avec quelqu'un au sein du gouvernement. Au sein même du gouvernement, on estime que on est à 2000, 3000 hommes vraiment bien entraînés, bien équipés et quelques milliers à côté qui sont plus des forces de soutien, mais qui ne pourraient pas participer de la même façon au combat. Ce qui reste quand même important, mais qui devrait être encore plus affaibli aussi à la suite, pardon, de cette guerre.
En début de semaine, le gouvernement libanais faisait état de 83 000 personnes déplacées dans la foulée des bombardements, notamment de l'armée israélienne et de l'avancée également au sol, même si on n'en sait pas grand-chose pour l'instant. Alors, il y en a qui arrivent à Beyrouth depuis le sud Liban. Beyrouth, c'est quasiment un autre pays, disait un article de L'Orient Le Jour. Il y en a un, par exemple, qui, pour se donner du courage, fait retentir sur un lecteur de cassette des hymnes à la gloire du parti de Dieu. Mais alors, c'est tout de suite une main hostile qui empoigne le Kidam, abreuvé d'insultes. Il s'excuse, il éteint sa radio, il réalise tout à coup qu'il est en territoire étranger, sur cette corniche de Aïn Mressé, où même la mer n'est pas la même mer. Ce ne sont pas les mêmes pays, le sud Liban et Beyrouth. Agnès Levallois, peut-être un tout petit mot sur ce qu'on peut dire, la solidarité de la population libanaise envers les habitants du sud Liban, qui semble aussi faiblir aujourd'hui.
Oui, ce que je note, moi, par rapport justement à la guerre de septembre-octobre 2024, où il y a eu une forte solidarité dans les régions qui n'étaient pas des régions chiites et qui ont accepté d'accueillir des réfugiés, il semblerait que cette fois-ci, ce soit beaucoup plus compliqué parce que les Libanais qui ne sont pas du Sud craignent qu'une chose, c'est de se faire bombarder par Israël. Si Israël considère que dans ces réfugiés qui ont quitté le Sud, eh bien, il y a des membres de Hezbollah. Et donc, la crainte est tellement grande qu'on ne voit pas du tout ce même phénomène de solidarité.
هون شو صاير هون انهيار وكم حب يوم يوم ورا يوم بستجوب التليفون قتيل بغرفة النوم كل يوم بروفت قتل هون مش قادرة أفصل خلاص خلص الحكي هون أرض صغيرة وجرح كبير ناس تضل ناس تضل وناس تغير غيب وسط الصالون
La chanteuse libanaise Yasmine Hamdan, née à Beyrouth et qui chante ici « Hon », ça veut dire « ici ». C'est une chanson qui date de l'année dernière. Depuis, cette chanteuse vit à Paris. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous. Anthony Samrani, depuis Beyrouth, co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour. Merci beaucoup. Ainsi qu'à vous, Agnès Levallois, présidente de l'IREMO, chargée de cours à Sciences Po Paris. Et à vous, Marc Semo, du journal Le Monde. Alors, la suite de cette histoire est nécessairement liée à ce qui va se passer en Iran, à ce qu'il va advenir du régime des Mollahs sans Ali Khamenei et sous le feu des États-Unis et d'Israël. Nous en parlerons la semaine prochaine dans Culture Monde avec toutes les précautions, les réserves, les nuances nécessaires et même la possibilité de dire qu'on ne sait pas. On parlera des mécaniques de cette guerre avec des invités qui partageront leurs réflexions sur l'interventionnisme états-unien en métamorphose avec le soutien d'Israël, sur les Iraniens privés de souveraineté entre guerre et répression, sur la non-prolifération de devenue l'excuse pour toutes les violences, tout comme les discours religieux. Dans un instant, les midis de culture.